Le son des bulles sur RCN.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au son des bulles RCN 90.7. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour également à tous nos chroniqueurs ici présents. Donc, rapide tour de table avec Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Bonjour Charles qui est à ma gauche aujourd'hui.
Bonjour.
Pas changé. Ah oui. Bonjour Françoise qui est à ma gauche également. Bon, on parle pas de l'autre côté. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour à tous.
Et bonjour Francine.
Bonjour David.
Est-ce que par ces temps.
Bonjour David, oui alors.
De grand froid, est-ce que ça va? Tout le monde va bien?
Ah non, j'ai pas de froid moi. Sauf si je suis près de la cheminée.
Un petit peu malade Anne-Marie.
Oui, ça va mieux.
Ok. Eh bien écoutez, on va lancer le froid.
Ah, le froid?
On lance le froid.
Pourquoi, il n'y a pas assez?
Ah ouais. Vas-y Jean-Luc, lance-nous le froid et l'eau.
J'ai des frissons. J'ai déjà froid là.
Enfilez les pulls. Mettez les bonnets.
Les moufles.
Les bottes de montagne.
On n'a pas eu assez froid comme ça alors.
Ah ouais, c'est Jack London là. Ah, je n'en plus que le traîneau ou les ours.
Nous ne sommes pas le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, mais pourtant il fait froid.
Et il fait froid.
Et à l'heure où on parle réchauffement climatique, ici c'est le Grand Nord. Ça meule, comme on dit en Lorraine, si je puis me permettre. Et on a neige, moufle, bonnet, gants, les microgels. L'ingénieur du son est pétrifié, voire vitrifié. Ça lui va bien au teint d'ailleurs. Donc le réchauffement climatique, autour de cette table, on trouve que c'est un vrai canular.
C'est vrai.
Pas du tout.
Bah si. Alors, on est dans ce climat sibérien. Tiens, un ours polaire vient de passer par la fenêtre. Jean-Luc, tu l'as vu? Derrière toi, attention.
Derrière la fenêtre.
Nous a tenté de prendre la parole dans nos brèves, avec nos lèvres gercées hein, sur les thèmes de l'hiver, du froid, le blanc, la montagne, enfin tous ces endroits un petit peu hostiles. Alors qu'on ne nous parle pas de réchauffement climatique. Hein.
Ah bah si, quand même, enfin.
Pas en Lorraine, hein,
non,
ça n'existe pas.
Mais
c'est
non,
pas vrai.
C'est vrai.
Non, le premier qui parle de la semaine du blanc aussi se fait virer.
Ça ne marche pas.
Alors, pour animateur, ce jour, alors là, autour du blanc, on s'est lâché. On ne peut pas dire qu'ils ont froid aux yeux. Ils ont carte blanche en permanence pour réaliser leur chronique sur laquelle ils peuvent passer des nuits blanches pour ne pas venir vous captiver. Et donc, nous avons, alors, avec quelques-uns de leurs exploits en prime. Oui. Donc, ils portent à merveille quelques cheveux blancs et ça lui va à merveille d'ailleurs. Et nous avons Olivier.
Ah, je croyais que c'était Charles.
Ils ne sont que rarement. Alors, j'ai retrouvé des vieux CV, les amis, attention.
Ah bon?
Ah oui, des CV de champion, attention. Alors, Olivier, toi, j'ai vu que tu étais champion de curling sur les lacs gelés de l'Himalaya.
C'est vrai. J'ai laissé mon balai à l'entrée parce que je ne voulais pas les prendre, mais je vais le prendre après.
On en a encore des.
Oui. Comment tu sais ça?
Ah, bah, je creuse.
Bon, c'est tout, tu sais.
Bravo.
Celui qui aimerait bien se faire des cheveux et qui les aimerait même blancs, eh ben, c'est Charles.
Alors, Charles, tu ne nous avais pas dit, Charles, que tu es chez champion du monde de bobsleigh à Disneyland.
C'est vrai.
Tu l'avais pas dit,
manque d'entraînement, c'est ton.
Oui,
Arrêtons de dire vrai, tout est vrai. Ouais. C'était une
bobsleigh avec le prince de Monaco ou non? Il fait du bobsleigh, je crois.
Stéphanie surtout.
Il court derrière.
C'est plus sympathique. Nous avons aussi Francine, alors ni oie blanche ni blanche colombe, cependant connue comme le loup blanc.
Alors Francine, nous épate. Elle était championne de patin glace sur gazon au Qatar.
Pas du tout. Alors là, c'est faux.
C'est faux, Francine?
Ah oui, c'est faux. Alors, c'est ma jumelle qui avait usurpé mon identité.
Ah d'accord.
Désolée.
Rectifions les faits.
Encore un fake.
Bon, et nous avons alors aussi, toujours à la droite de David, Anne-Marie, capable d'intervenir de but en
blanc.
Et oui. En nous fixant dans le
blanc
des yeux. Oui.
Alors, Anne-Marie, je ne savais pas que tu étais championne de boules de neige au Sénégal. C'est pratique pour les apéros, ceci dit.
Il n'y a que là que j'arrive à peu près à battre tout le monde.
Ah oui, mais c'est pas mal.
Là-bas, ils n'ont jamais vu un flocon.
Voilà, c'est ça. Parce que quand je lance les boules de neige, je rate tout le temps. Donc là-bas, comme il n'y a pas de neige, je ne risque pas de rater.
Et vos deux contributeurs, en plus, autour de cette table, qui...
Un peu cousu de fil blanc,
mais on va le dire, hein, effectivement. Donc David, le chevalier blanc dans le monde des Marvel.
Bah, dit la rumeur, le transplanteur de glaciers au Sahara.
Ah, bah, transplanteur
de glaciers. Monsieur. C'est une lourde tâche, pour avoir de l'eau potable.
Pour avoir de l'eau potable,
Et Françoise, donc coiffée comme Adèle Blanc-Sec, elle ne peut pas mieux.
C'est sûr.
Championne de briseuse de glace au palais du même nom, d'ailleurs, du coup. Voilà, bref, nous sommes tous là.
Et on peut s'applaudir.
On s'applaudit. Bravo les amis, bravo.
Mais on n'est pas forcément blanc comme neige non plus.
Non,
des vraies vedettes. Alors, pour l'organigramme un petit peu de ce qui va ouvrir le feu finalement aujourd'hui, eh ben, je pense que c'est Charles qui va ouvrir le feu. Alors,
parler du blanc, mais je ne suis pas très disposé à parler du blanc parce que j'ai toujours pensé que, par exemple, les trous noirs étaient trous blancs. Donc, comme vous êtes parti dans un délire monochromique, on peut dire, pour parler du blanc, bien sûr, moi, je vais vous parler du noir pour rétablir l'équilibre. Alors, je vais vous parler d'un livre noir, c'est un livre sombre dessiné par Lefret Toulon, publié par les éditions Toulon. Fuite glaciale en 2017. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un livre où toutes les pages sont noires.
Ok.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme on est à la radio, des gens nous écoutent actuellement, donc on va pouvoir faire quelque chose de simple, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir dessiner le livre chez eux. Alors, prenez une feuille de papier.
Bien, c'est une émission participative. Okay. Les gens participent.
Prenez une feuille de papier et un gros feutre noir.
Oui.
Ouais. Voilà, hein. Okay.
Donc, vous dessinez un carré.
Oui.
Voilà. Voilà. Ça va.
De quelle taille le carré ?
Donc en plein milieu de la feuille.
Comme tu veux.
Comme tu veux.
Comme on veut.
Un gros feutre.
Vous aurez la surprise après. Et donc là maintenant, vous remplissez le carré de noir. Entièrement noir.
Okay. On peut le faire sur ordi. Prochain café BD, Charles.
On peut le faire sur ordi.
Ah oui, mais c'est pas... Je sais pas si
c'est... Moins voilà. Donc,
si mes calculs sont justes, on doit arriver à ce résultat.
Tout à fait.
Mmh. Ouais.
Et qu'est-ce que c'est, ça ? Si je me réfère au livre noir de Fuite glaciale, il s'agit d'un selfie coloscopique.
Mais alors, de qui ?
Vous avez tous participé, parce que vous avez fait quelque chose d'intéressant au moins. Toutes les pages sont du même tonneau. Alors là, par exemple ici sur cette page-là, est-ce que je peux allumer ? Non, j'ai peur du blanc. Voilà.
pas mal.
Voilà. Là, vous avez ici hors des plans un frigo fermé de l'intérieur et là. C'est un four fermé de l'intérieur. Ah, oui. On peut faire pour la machine à laver. Donc c'est assez encyclopédique. C'est un caméléon dans un tunnel.
Normal.
Vous pouvez... C'est ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, à partir de votre feuille de papier, faire des recherches.
Tous les concepts sont...
Voilà.
Il suffit de se creuser un peu la tête.
Je vais vous demander, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, le selfie ?
Non, c'est autre chose.
Qu'est-ce que c'est que ça, c'est un carré ?
Je dirais un peu.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Dans l'autre sens, le livre, c'était une coloscopie, donc dans le sens là, à l'envers, le c'est une endoscopie.
La nuit sans étoiles des morts vivants.
Vous pouvez pas dîner.
Donc je recommande...
Chaudement.
Le livre du noir. Donc c'est tout... Ah oui, je parle dans le micro, pardon, c'est toujours tout. Donc, le livre du noir, avec le jeudi 8h, en prime, quand même.
Ah oui, il faut les trouver, les amours.
C'est tout pour aujourd'hui, sur le blanc. C'était pas une petite chronique, puisque...
Tout à fait, non, mais...
la prochaine fois, je ferai monochrome sur Klein, ce sera du bleu. On y verra que du bleu, mais aujourd'hui, c'est que du noir.
Mais on peut s'amuser à lancer un concours, comme ça, où chacun fait son carré noir, et décrit après ce qu'il a vu dedans. On lance ça sur le Facebook.
Ouais. Voilà.
À chacun de nos auditeurs. Ouais,
la mer noire à marée haute.
La mer noire à marée haute.
C'est un très bon concept.
Ouais, on va lancer ça.
20 milieux sous la terre.
Ça marche.
C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors. Merci Charles pour cet excellent livre. Ça peut même être une super idée pour les cafés BD. Je vais peut-être t'emprunter ces idées-là. C'est vraiment sympa. Parce que du coup, les gens qui ne savent pas dessiner, finalement, seront très rassurés.
C'est pour débuter, pour faire de la bande dessinée, c'est très bien.
Très bien.
Je pense que c'est un bon début.
C'est un bon point de démarrage.
Voilà.
La séquentialité dans tout ça.
Mais là, on n'est plus vraiment dans la BD classique. C'est vrai que souvent, dans Fuite glaciale, il déborde les.
On frise de concept.
Voilà. Donc là, oui, il n'y a pas de séquentialité, je reconnais.
Presque le classique dans le roman noir. Presque. Oui.
Alors, il y avait de très bons romans en photo dans Fuite glaciale dans lesquels j'ai participé. Donc, il y avait. J'y recommande. Hein, aussi, c'est des très bons achats à faire. Voilà.
D'accord. On fera ça dans le conseil.
Il y avait le grand qui était président à Groland, là. C'était dans Fuite glaciale ou dans Pilote ?
Ah ben, il y a Yoren, il y avait beaucoup de gens de filles glaciales sont de Nancy. Hein.
Avec des jolies jeunes femmes, avec des courbes, c'était ça?
Alors, c'est-à-dire que...
Il commence par c'est-à-dire...
Bon. De mémoire.
C'est le passé, Charles.
On triche un peu, mais je me rappelle que chaque fois qu'on faisait des photos de la rédaction, on faisait venir en avant les secrétaires, etc. pour...
pour rehausser le niveau.
Un peu de peps dans les photos, quoi. Voilà.
Ok. Ah bah écoute, je vais peut-être enchaîner là, ce que je vais vous parler. Alors, moi, je vais vous parler d'un tout autre chose. On revient sur le blanc. Hein, on revient quand même sur les fondations de l'émission. Le blanc. Donc, je vais vous parler de Transpersonnage, de Loeb, Rochette et plus tard Legrand au scénario. Donc Loeb ayant malheureusement était décédé, et puis Rochette a repris avec Benjamin Legrand ce formidable album. Alors le Transpersonnage, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre culte au destin assez singulier, en fait, qui est publiée dans les années 80 puis adaptée au cinéma dans les années 2010 par un coréen, imaginé par Jacques Loeb au début des années 70, un ancien d'Harakiri. Qui raconte la survie des derniers humains sur Terre après un cataclysme à bord d'un train qui est condamné à rouler indéfiniment. Fortes connotations politiques dans les premiers épisodes sont publiés dans la série et revue à suivre en 82. Mise en image par Jean-Jacques Rochette, un dessinateur, un très bon dessinateur. Jean-Marc. Excuse-moi.
Le frère jumeau.
Jean-Marc Rochette, associé presque par hasard à ce projet. Jacques Loeb, parce que j'ai dû marquer Jacques Loeb et Jean-Marc. Qui confie au départ à un jeune dessinateur, Alexis, un jeune dessinateur de fluide glacial, mais celui-ci décède subitement à l'âge de 31 ans. Des essais auront lieu également avec Régis Loisel ou François Schuiten, mais qui ne seront pas retenus. C'est à sa grande surprise que l'inexpérimenté Jean-Marc Rochette est retenu. Et puis ensemble, ils vont publier donc 12 pages par mois dans ce fameux récit à suivre. Et en 84, il paraît et est récompensé en janvier 85 au Festival d'Angoulême. Après le décès de Jacques Loeb en 90, malheureusement, le scénario est repris par Benjamin Legrand, qui trouve l'idée d'un autre train. Le tome 2, L'Arpenteur, en 99, puis en le tome 3, La Traversée, en 2000. Les deux ouvrages ne sont pas un franc succès, les deux derniers. Jean-Marc Rochette, décidément, parce que tu vois, c'est resté, c'est imprimé. Reprends-moi si tu veux, Francine, à chaque fois. Arrête la BD pour se consacrer à la peinture. Alors, dans ce recueil qui est là, en fait, c'est l'intégrale, on va dire, des trois albums. Alors, il y en a eu d'autres après, mais bon, je vais pas les évoquer, mais je vais rester vraiment sur le Transpersonnage du tout début. Il y a eu donc, 30 ans après, une adaptation. Donc, le renouveau vient donc de l'adaptation. De cette bande dessinée par le réalisateur du film Host, un réalisateur coréen qui a été séduit par le concept un peu apocalyptique de fin du monde de cet album, et donc il va dans un premier temps recontacter Rochette et puis Legrand, qui n'était pas du tout au courant du succès qu'avait eu l'album, et pour cause, puisqu'il avait été piraté, entre guillemets, et traduit par des Coréens en version pirate, entre guillemets, traduit. Ah, ça même pas qu'il y a une traduction de leur bouquin là-bas. Et ils apprennent ça, donc, parce que le réalisateur, je vais pas écorcher son nom. Excusez-moi. Le train est une sorte de métaphore de la lutte des classes. À l'avant, les dirigeants, à l'arrière, les opprimés, les pauvres, ceux qui servent à rien, entre guillemets, quoi. C'est une espèce de métaphore. Alors, dans le DVD du film, parce que le film est quand même sorti, vous pourrez également consulter un documentaire qui reprend de la feuille blanche. Alors, bon, ça, on peut rebondir un petit peu sur le thème du film, à l'écran noir. Je rejoins du coup peut-être un peu plus de Charles. La BD a connu un vif succès qui est tombé donc un peu dans l'oubli après 2000. Donc, cette version adaptée, excusez-moi. Donc, si j'ai retrouvé le nom, Bong Joon-ho, qui découvre la série française.
C'est ce
que j'avais dit,
Charles.
C'était pas loin. Alors, les auteurs vont participer à la création de ce film, et vont même être d'ailleurs figurants dans le film. C'est ça qui est rigolo. Ils vont être des figurants plus dans le fameux film. Et on verra même les dessins de Rochette qui vont servir un peu comme ça m'a rappelé un peu ce que j'avais fait moi dans le Trancher sur le vif de ceux de 14 de Maurice Genevoix, où le dessinateur Rochette a réalisé les dessins pour le film parce qu'il y avait un dessinateur dans le train. Qui également donc était un peu l'espèce de chaman qui prenait en note dessinée ce qui se passait à l'intérieur du train, parce qu'il n'y a pas du tout d'appareil photo bien sûr dans le train, il n'y a pas de façon de caméra pour filmer à part la caméra du réalisateur. Donc on va retrouver ces dessins dans le film. Alors, c'est je trouve ça assez sympa. Alors je vais vous montrer un petit peu à la fin aussi, on ne verra peut-être pas, mais il y a des superbes dessins de Rochette réalisé sur du papier craft, sur des papiers un petit peu de récup comme ça, avec des ambiances très sombres, très noires, très dark, vraiment c'est très très chouette. Il y a vraiment un dessin qui est redoutable et qui correspond vraiment bien à l'ambiance du un peu apocalyptique du film. Alors,
Donc on est dans
le blanc foncé, quoi, c'est ça. Dans le blanc foncé, ouais, c'est un peu ça. Très peu de blanc finalement. Alors c'est une œuvre dure, fataliste, tragique au destin où l'humanité les combats qu'elle aura livrés pour sa survie. Certains ce train sillonne le monde et à son bord les survivants de l'humanité obligés de s'y réfugier et de faire face à une nouvelle ère glaciaire. Les riches à l'avant et les pauvres à l'arrière, comme je vous le disais. Prolof habite à l'arrière, c'est un des protagonistes du bouquin, donc le héros. Il est retrouvé par la milice et ne supportant plus la vie à l'arrière, les crimes commis à l'arrière. Il y a même également un colonel à bord qui veut lui carrément détacher une partie du train pour que le train aille encore plus vite. Il y a une jeune femme également qui se trouve dedans qui est une espèce d'assistante social, entre guillemets, qui veut elle aider les autres. Enfin, il y a vraiment une vraie belle profondeur dans ce film. Alors, le réalisateur, pourquoi est-ce qu'il a trouvé... Alors, je reviens sur le réalisateur, mais parce que c'est vraiment le film qui a peut-être mis un petit coup de boost à cette bande dessinée qui était un peu tombée dans l'oubli. Le réalisateur, donc, pour lui, le moteur du train est situé à l'avant et gardé par son créateur. Le héros, lancé dans sa quête de la gauche vers la droite, et l'âge de glace apporte un côté désespérant. Mais c'est ce qu'on va retrouver également dans tous les films de ce réalisateur, hein, Okja, Parasite, Host. Et alors, on va dire que c'est pas très grave que ça raconte pas l'exacte bande dessinée.
C'est une réécriture, c'est pas une adaptation, c'est une interprétation, c'est vraiment une interprétation personnelle.
Tout à fait. C'est le principe même de l'adaptation, hein, qui transpose une œuvre dans un autre média et qui le modifie, qui en modifie les codes pour essayer de garder le même fond. Et ça, c'est toujours souvent critiqué, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'un réalisateur doit s'approprier l'œuvre d'un auteur, quel qu'il soit, écrivain ou dessinateur, pour en faire autre chose.
Là, c'est vraiment une réussite.
C'est une réussite. Pour le film. On parlera peut-être pas de la série qui a un cran en dessous quand même. Voilà. On va laisser les auditeurs vraiment sur le film Transpersonnage avec un très bon casting. Donc voilà, donc je conseille cette lecture là Transpersonnage. Voilà, voilà.
C'est une belle BD en plus, elle a vraiment une belle pagination, ouais. Et là ça doit être fragile en plus.
Mais c'est voilà, on a les trois recueils dans un seul.
Ah d'accord, c'est pour ça que voilà. C'est
avec un très beau élément documentaire.
Mais avec un format réduit par rapport au format original. Albums sont plus.
Tout à fait. On perd un petit peu, c'est vrai, Francine.
Oui, c'était des grands formats.
Ouais.
Eh ben, c'est maintenant la pause musicale, les amis. Ben nous allons
avec un chef-d'œuvre vocal, donc The Cold Song, hiver.
C'est la pause musicale. Eh bien,
pause musicale, The Cold Song de Klaus Nomi. Unwillingly and slow,
Le son des bulles sur RCN.
Après cette magnifique chanson, moi ça me file des frissons à chaque fois, je la trouve splendide. Il y a une voix magnifique. C'est Olivier qui va nous présenter. Ah bah, je ne sais pas ce que fait la chanson là de Marie,
mais ça, c'est pas ça, c'est la tête de Charles.
Ah, mais d'accord.
Oui, non, mais je ne vois pas l'intérêt d'enregistrer tant de souffrances.
Voilà. Oh là là. Aïe, aïe, aïe.
Enfin, pourquoi c'est du voyeurisme sonore.
Les grandes souffrances sont mises.
Il s'agit de King Arthur de Purcell.
Et puis c'est après le selfie.
Oui, mais là, c'est ça. Il y a peut-être un lien, effectivement. Il y a peut-être un lien, il faut se méfier.
Bon, Olivier, ça va être à toi sur tout ça, effectivement. Tu nous présentes Winter Road. Alors, j'espère que ce sera plus joyeux que ce qu'a présenté David.
Plus joyeux, je ne sais pas. Hein, mais alors là, les amis, moi, je vous suggère de remettre vos gants, vos bonnets, vos écharpes et vos doudounes, comme je le fais actuellement. Parce que je vais vous présenter un album qui, dans la thématique le froid, la neige, le blanc, coche toutes les cases. Ça s'appelle Winter Road de Jeff Lemire, paru en 2016 chez Futuropolis. J'enlève l'écharpe parce qu'il fait quand même un peu chaud dans le studio. Voilà, ben dès l'ouverture du livre, dès les premières cases, moi, mes doigts, franchement, ils ont commencé à s'engourdir, à devenir bleus. Il y a un filet de vapeur qui est sorti de ma bouche. J'ai été transporté en Ontario, à Pimitamon, un petit village planté au milieu des grandes forêts canadiennes, où les hivers sont interminables. Alors, pour me réchauffer, je suis allé au pit stop. C'est le seul bistrot de la ville. Un endroit plutôt tranquille, où on s'arrête le soir en rentrant du boulot, avant de s'enfermer dans la maison jusqu'au lendemain. On boit une bière, on écoute de la musique country, on joue au billard, on discute de tout et de rien. Vous voyez quoi, un peu les petits cafés voilà, de là-bas, quoi, du Canada. Et puis au bar, il y avait Derek Ouellet. Vous connaissez Derek Ouellet?
C'est pas
Derek Ouellet. Le Derek Ouellet, un visage un peu coupé à la serpe, là, comme ça, une corpulence de bûcheron, un nez de bagarreur de rue. Une star locale, le Derek Ouellet. Ça m'étonne que vous ne connaissiez pas. Bon, à l'époque, c'était un des meilleurs joueurs de hockey du pays, quand même. Jusqu'à ce qu'il brise sa carrière en brisant les cervicales d'un de ses adversaires. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, le Derek, il est tombé de haut. Et même si c'était sur un tapis de neige, ça lui a laissé beaucoup de traces. Alors, depuis, Derek, qui est là sur la couverture, il traîne ses grosses bottes à Pimitamon, il dort dans un local du gymnase et travaille comme cuistot dans un restaurant. Alors son avenir c'est quoi? C'est fumer des cigarettes, regarder la neige tomber, s'enfiler des bières au pit stop et le cas échéant défoncer le nez de ceux qui lui rappellent de trop près la carrière qu'il aurait pu avoir. Et oui, voilà, c'est ça. À Pimitamon, la déprime s'accroche aux habitants comme la neige à leurs bottes. C'est gay, hein? on est dans la thématique, hein, voilà. Mais un soir, en rentrant du boulot, Derek tombe sur sa sœur, Betty. Elle est là, assise au pas de la porte du gymnase, et avec ses traits tirés, ses cheveux ébouriffés, son œil au beurre noir. Hein. On comprend vite que Betty, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses ennuis aussi. Hein. Et là, ça fait des années que Derek et Betty ne s'étaient pas vus. Et le jour où Derek est parti réaliser sa carrière de joueur de hockey, Betty, du coup, elle a quitté le trou perdu de Pimitamon pour en quête d'un avenir meilleur. Et le destin, il est parfois un peu facétieux. Et Derek, ils ont suivi des routes un peu différentes, mais... Du coup, ils se sont retrouvés, au final, à Pimitamon avec des expériences bien différentes. L'amour fraternel, quand même, qui lie les deux personnages, Derek et Betty, il est extrêmement fort. Alors quand Derek, il apprend que sa sœur court un grave danger, sa rudesse d'habitant du Grand Nord canadien prend le dessus. Et il entend faire le ménage dans la vie de Betty et faire enfin quelque chose de bien dans sa vie à lui. Mais est-ce que le destin va laisser faire les choses sans mettre son petit grain de sel? Ça sera à vous de le découvrir dans la suite de l'album. Hein, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler. Ah non, on ne va pas te spoiler.
Pas spoiler.
Alors moi, je vous avoue que cet album, je l'ai adoré. Winter Road, c'est une histoire familiale très forte. La dureté des paysages, l'atmosphère déprimante du village. On est toujours dans le truc hyper gay quand même. La rudesse des personnages, je suis désolé, mais je pourrais vous le faire en chantant. Peut-être, je sais pas, ça sera peut-être plus gai.
Mais est-ce que sa sœur n'était pas aussi balèze que lui? Parce que c'est,
sa sœur est quand même moins balèze
que lui. Elle est moins balèze que... Ah bon, non, non, j'imaginais tout de suite le même calibre.
Non, elle est plus fine, elle est plus douce. Et,
d'accord, plus féminine.
Et, plus féminine, voilà, tout à fait. Okay, okay. Et donc, toute cette rudesse-là qui les entoure, bah, ça sublime les petites étincelles d'amour fraternel qui s'allument à certains moments du récit. Alors l'aspect, voilà, au niveau du dessin, c'est un aspect assez anguleux, pardon, et ça renforce... Pour moi, l'immersion, alors il y a des gros plans, c'est comme ça, l'immersion dans l'histoire. Hop, je peux vous faire passer si vous voulez. Et alors, Canderec, par exemple, ce voyou, d'ailleurs c'est le nom de l'album dans sa version originale, voyou, pardon. Et ben Canderec, voilà, vous voyez, il nous regarde en face, en gros plan comme ça. Ben, c'est autant pour nous signaler sa férocité, dans le genre, ben, tu vois, comme je suis une vraie teigne, que pour nous appeler au secours. Allez, je sais pas, aide-moi à me sortir de cette vie de chien. Et ça, franchement, ben, des fois, dans les lectures, ça prend un peu aux tripes. Alors, ce que j'ai aimé aussi, ce sont tous les petits éléments narratifs là, qui, au fil de l'histoire, par exemple, il y a régulièrement les bruits de neige, les bruits des pas dans la neige, ça fait crunch, crunch, vous savez, quand la neige fait crunch, crunch, crunch. Et ça arrive, c'est constamment au cours de l'histoire, ce petit bruit-là. Il y a les souvenirs aussi qui sont en couleur, alors que le présent, il est tout en nuances de gris. Et puis à un moment, quand ils se souviennent, bah, c'est tout en couleur. Alors généralement, c'est un peu l'inverse. Quoi. Oui. On se souvient quand c'est en gris, puis la réalité, elle est plus en couleur. Ouais. Mais là, c'est l'inverse. Et puis, faute de temps, je ne vous parlerai pas non plus des personnages secondaires hein, qui apportent, voilà, les souvenirs qui apportent des nuances nécessaires au récit. Mais grâce au génie de Jeff Lemire et de sa maîtrise en tant que dessinateur et raconteur d'histoire, l'implication du lecteur est totale. Enfin, du moins, ça a été ça pour moi. Alors, croyez-moi, hein, même si j'ai lu cet album avec un plaid sur les genoux et une bonne tisane, à la fin de l'histoire, j'ai eu des vrais frissons.
D'accord.
Ah oui, la fin de l'histoire, elle est formidable. Un petit mot sur Jeff Lemire, auteur canadien, 47 ans, un homme, un jeune homme, quoi, hein, par rapport à la plupart d'entre nous.
Comment ça?
La plupart.
47 ans de carrière, pour certains.
De carrière. Et pourtant, une bibliographie déjà impressionnante, tant en qualité qu'en quantité. Alors, on voit que dans le désordre, mais chacun pourra citer d'autres choses, il y a Essex County en 2010. C'est aussi une histoire familiale qui se déroule au Canada. Ça ressemble un petit peu à ça, d'ailleurs. Hein. C'est un des premiers best-sellers de Jeff Lemire. Sweet Tooth, une série post-apocalyptique. Je savais qu'en l'écrivant, j'aurais du mal à le dire. Post-apocalyptique.
Ah, oui. Alors, qui est également une série sur Netflix, je crois. Sweet Tooth, un gamin avec des petites oreilles de cerf. C'est ça.
Alors, c'est
des... Des cordes de cerf.
Oui, c'est oui, des bois de cerf.
Des bois de cerf. Des bois.
Mais il a des oreilles aussi, quand même.
Voilà. Très bonne série que j'ai vue. Très, très bonne.
Tout à fait. Et donc, sous tous, là, de Jeff Lemire, ça a remporté aussi un franc succès. Il y a les séries de science-fiction Ascender et Descender, ou Descender et Ascender, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Gideon Falls, une série à classer dans l'horreur et la psychologie, une série qui a reçu un prix Eisner en 2019. Voilà, et tout un tas d'autres publications que je vous conseille de consulter parce que entre saga familiale, histoire à faire peur, série pour rêver, ben dans la bibliographie de Jeff Lemire, vous trouverez toujours quelque chose à vous mettre sous les yeux. Voilà, puis curieusement, alors c'est bizarre, mais Winter Road, il n'est pas toujours cité dans la bibliographie et pourtant, franchement, c'est un album qui mérite d'être lu. Parce que je vous assure que moi, ça m'a fait...
Ça t'a retourné.
Ça m'a fait, ouais, c'était un vrai
comme
album.
Ces deux derniers albums, qui sont Le Labyrinthe...
Inachevé,
et Les Éphémères.
D'accord. Oui.
Donc il a un panel différent, c'est ça. Il a un panel,
c'est incroyable. Dans les histoires familiales, que ce soit Les Éphémères ou...
Le Labyrinthe Inachevé.
Mais c'est pareil.
Et oui, il y a toujours un peu ce côté familial dans ces histoires. Et il explique, bon, il y a... C'est à différents niveaux. Des fois, il s'en sert pour expliquer pour extrapoler le côté un peu social des histoires. Et puis, des fois, il y a quand même un peu beaucoup de sa personnalité à lui, de ses histoires à lui là-dedans. Quoi.
C'est assez rude, en fait. On voit que c'est assez.
Par
l'endroit, le climat aussi, les relations entre les personnages sont un peu.
C'est du costaud. Et le gars qui est le Derek Ouellette, c'est un ténueux, hein, mais il a quand même un sacré cœur.
La famille, c'est la famille, quoi.
C'est la famille. Ouais. La famille, c'est la famille.
Okay.
Donc voilà, peut-être à mettre sous le sapin.
J'allais dire à lire, à offrir, alors. Merci. Apparemment sur les trois.
Oui, celui-là, oui.
Grand merci pour cette découverte, Olivier, merci. Mmh. Wintero, donc de Jeff Lemire.
Tout à fait.
Eh bien, nous allons passer à toi, Francine. Est-ce que tu étais rêveuse? Je te sentais un peu rêveuse. Regardez la neige, la glace.
Là, oui, c'est ça.
Un peu rêveuse de cette ambiance canadienne.
Est-ce que ça rime avec joyeuse? Parce que là, les gars, vous n'avez pas
Tu vas nous parler de Saint-Nicolas,
c'est ça? Moi, ce n'est pas
joyeux, joyeux. Ah, zut, alors, décidément.
Pas tout à fait encore qu'il y a des lueurs d'histoire. Bah oui, parce que bon, c'est vrai que bon, l'émission est enregistrée, mais aujourd'hui, nous sommes le
6.
Et le 6 décembre, c'est le jour de la
Saint-Nicolas.
Et nous sommes en
décembre.
Lorraine. Donc, comment ne pas parler de la véritable histoire de Saint-Nicolas? Parce que je suis sûre que la véritable histoire de Saint-Nicolas, celle que nous raconte Thierry Fanasselt, vous ne la connaissez pas. Parce que Saint-Nicolas, on en a plusieurs versions. La version historique, austère, qui retrace la vie du saint. La version bisounours aussi, qui apporte des mirabelles pour des demoiselles. Encore que c'est nettement moins sympathique pour les garçons. Mais bon, passons. La version un peu plus gore que vous savez, avec les trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ et puis qui se sont retrouvés dans le saloir du boucher, que Gérard de Nerval himself a consigné par écrit en l'an 1842. Et la véritable histoire, alors me direz-vous? Eh bien, la véritable histoire, c'est Thierry Fanasselt qui va nous la livrer. Une version un peu particulière et décalée d'un Saint-Nicolas témoin, je le cite, de notre anthropocène déglingué sous la forme d'une fantastique fable métaphorique. Alors l'album va transporter l'histoire dans notre monde actuel. Et quel monde, hein ? Nous retrouvons Saint-Nicolas arpentant seul un monde pollué, dévasté par les inondations, les incendies, devenant ainsi témoin des dérives sociétales et autres catastrophes écologiques, un monde non exempt de violence, notamment vis-à-vis des plus faibles, les réfugiés, les personnes en situation de précarité, à laquelle bien évidemment se joint l'omniprésence et la répression des forces de l'ordre. Alors il va arriver dans un château où se tient un dîner de gala partagé par des personnalités politiques. Donc on va reconnaître Poutine, Macron, Marine Le Pen, des dirigeants belges également, parce qu'il ne faut pas oublier que Thierry Fanasselt est belge. Alors horrifié, il va se rendre compte que la viande qui trône dans son assiette n'est autre qu'un morceau d'enfant. Alors il va se rendre aux cuisines, évidemment, et fidèle à la légende, il va ressusciter les enfants et les entraîner à sa suite. Alors, pour parler peut-être un petit peu de Thierry Fanasselt, justement, qui est un scénographe, installateur, graphiste et enseignant au master de bande dessinée de l'ESA Saint-Luc. Thierry Fanasselt est également fondateur des éditions Frémok, chez qui d'ailleurs l'album paraît, bien évidemment, au lieu de la bande dessinée indépendante expérimentale belge et qui aime à faire résonner la bande dessinée avec les autres arts. Alors la toute première partie du récit, jusqu'à la délivrance des enfants, elle est entièrement muette, entrant ainsi en pleine adéquation avec le propos, parce que leur avenir est, confisqué par les adultes qui ne leur donnent pas la parole. Donc, on va faire un constat, on va avoir Saint-Nicolas qui va vraiment être observateur de toute la déliquescence de notre monde. Et puis, leur libération, par contre, va leur redonner non seulement de l'espoir, mais aussi, ils vont commencer à s'exprimer. Je, nous sommes les enfants. Alors, la narration se fait essentiellement par l'image, avec sa jaquette à la crissouère. C'est-à-dire que si on déplie la jaquette, on va avoir un super poster qui va reproduire toute la scène. Son grand format, l'album entièrement réalisé à l'aquarelle et au Stadler le plus fin du marché, est un très bel objet. Chaque case, pleine page ou double page, fourmille de détails, est une porte grande ouverte sur l'imagination et fait jaillir tour à tour émotion ou violence.
Alors, chaque image est une sorte de petit tableau. Alors, j'ai aimé créer avec l'aquarelle des contrastes et des ambiances qui sont presque sucrées par moments. Les couleurs sont séduisantes, assez acidulées, et de ça peut sourdre une grande violence. Quand on feuillette le livre, on n'a pas l'impression d'être dans un univers dark, sombre. Et quand on s'y plonge, on s'y rend compte que cette couleur, est plus irradiée. Elle est presque nucléaire. Alors que ce que je montre, ce sont des images qui viennent directement du réel, ce sont des icônes télévisuelles.
Chers lecteurs, nous voici en direct de la S Grand Atelier, le centre d'art brut et contemporain, installé dans les anciennes casernes des chasseurs ardennais à Vilsham. Si nous nous trouvons actuellement au cœur de l'Ardenne belge, dans ces ateliers de création pour artistes fragilisés par une déficience mentale, c'est pour rencontrer, tenez-vous bien, le seul, l'unique, le grand major S. urbaniste de génie, créateur diémurge de Franz Disco, Saint-Nicologue, passionné, il est à l'origine de cette véritable histoire de Saint-Nicolas.
Et oui, parce qu'à l'origine était Franz Disco. C'est ainsi que dans sa postface, Thierry Van Esselt nous convie à un entretien avec l'artiste Marcel Schmitz, alias le Major S, celui par qui tout a commencé. La cité de scotch et de carton créée par le Major, l'histoire de ses habitants narrée par l'artiste, a pris vit sous le trait de Thierry Van Esselt dans l'album « Vive à Franz Disco » paru en 2016 aux éditions Frémok. Et Saint-Nicolas était l'un de ses habitants. Et puis le Majeur a imaginé une suite, les aventures des habitants de Franz Disco sur la planète 2. Thierry Van Esselt alors pensait que l'aquarelle serait adéquate pour illustrer cette aventure, mais malheureusement il ne maîtrisait pas du tout la technique. Alors il a décidé de s'entraîner en créant une petite histoire, une histoire courte à partir de Saint-Nicolas, ce personnage emblématique pour le Majeur. Mais il a commencé, il s'est pris au jeu, ça n'a pas duré quelques mois, mais ça a duré 4 ans. Et la suite, on la connaît, ça a donné la véritable histoire de Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas, c'est un véritable mutant, hein, de Saint-Nicolas de la légende à celui de Thierry Van Esselt, en passant par celui du Major S, Saint-Nicolas a subi bien des mutations. Alors comment le définir? Un être hybride, au visage humain, mais au corps étrange, avec un coffre à la place du ventre, dont il va sortir les cadeaux qu'il offre, non seulement aux enfants sages, mais à tous ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort. Mais ça, ce n'est qu'une facette de ses pouvoirs. Alors, c'est complètement déjanté. Je ne vous raconte pas, évidemment, tout ce qui va se passer. Hein. La véritable histoire de Saint-Nicolas, métaphore dans laquelle le boucher de la légende cède la place à la déliquescence d'un monde qui ne prend pas en compte l'avenir de ses enfants, est un roman graphique engagé d'une folle invention et qui s'est vu décerner le prix Primabula au festival Formulabula, ce qui est amplement... Justifié, voilà.
Il y a Anne-Marie qui déploie. Allez voir sur Facebook parce que l'émission, il y a des planches somptueuses. Pas radiophonique, mais c'est magnifique.
C'est absolument lui.
Très très beau.
C'est
super. Ah mais c'est vraiment une fresque.
Donc la jaquette, voilà, c'est une fresque.
Une fresque. Très sympa. Sur le micro, Anne-Marie.
Ah, il y a le micro.
Ah, moi, j'avais une question. Parce qu'en général, le Saint-Nicolas, il est accompagné par un âne.
Oui.
Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que le Saint-Nicolas est parmi nous? Est-ce qu'il y a un âne parmi nous?
Qui veut faire l'âne aujourd'hui? Alors, j'ai entendu aussi que c'est dans les Alpes. Il défile le tonton avec le crumac. Une espèce de créature
toute façon, les gens sont différentes suivant les endroits. En Belgique, c'est pas 3 enfants, c'est toute une série d'enfants qu'il va retrouver. Donc, suivant les différents endroits, les légendes sont un peu différentes.
Nous, on a Père Fouettard, en fait, dans notre région.
Père Fouettard, c'est Père Noël.
C'était une caricature de Charles Quint.
Voilà, c'est
ah oui, c'est vrai.
C'est un personnage lorrain.
On associe souvent quand même les deux, Saint-Nicolas avec le
l'âne, c'est vrai qu'il y a l'âne.
Et l'âne aussi, effectivement. Il a cette capacité de créer des miracles aussi, donc c'est un personnage un peu mutant.
Il faut visiter, alors dans cette registre, c'est la basilique de Saint-Nicolas de Port, parce qu'il y a toutes les légendes du Saint-Nicolas. Il y a notamment, parce qu'il avait donné une dot à des jeunes filles, au milieu de l'allée, il y a une petite pierre rose.
C'est toujours trois, toujours.
Le chiffre 3.
La symbolique du chiffre 3.
La trinité. Hein.
Les 3 petits cochons. C'est dans notre... Mais allez à Saint-Nicolas et il y a une pierre au milieu pour vous poser le pied dessus et vous vous mariez dans l'année. Oui. Alors soit vous posez le pied dessus, soit vous
y allez. Il n'y a pas une relique aussi. Il n'y a pas une relique aussi.
Il y a une relique. Il y a un bois du Saint-Nicolas. Il y a effectivement un poteau. Il y a plein de légendes autour. Il y a les chaînes du sire de Réchicourt qui étaient pris par les Sarrasins.
Le pilier qui pleure.
Le pilier qui pleure dans lequel. Parce qu'il est tordu. Non, mais allez voir. La basilique de Saint-Nicolas de Port, c'est un ravissement, c'est beau comme tout, il y a toutes les légendes, il y a de quoi faire.
Et puis surtout la brasserie de Saint-Nicolas.
Ah oui,
par laquelle
est passée
Saint-Nicolas.
Et le musée de la brasserie.
Oui. Et on pourra boire d'ailleurs, 3 bières.
à propos de la bière, vous savez qu'à Champignol, il y a quand même eu le miracle de la bière.
Ah, qui s'est passé?
Un grand miracle, c'est-à-dire que quand on a translaté les restes de Saint-Arnoux, On manquait de bière, et à Champignoles, justement. Donc, ils ont prié, et le saint a rempli les tonneaux de bière. C'est un grand miracle qui est méconnu, mais il y a quand même un tableau qui est au musée de la bière qui relate ce grand miracle. Donc voilà, là je me suis converti quand même, quand j'ai appris qu'en priant fort, on pouvait avoir
régulièrement
la bière.
Faire tes.
Voilà.
C'est plus joyeux que l'eau bénite, hein, mine de rien.
Ah oui, c'est vrai.
Et moi je suis quand même buveuse de bière en talons aiguilles de Lorraine.
Ouais.
Voilà, je suis partie.
Il faut le savoir.
Donc voilà, ça je ne savais pas. Par contre.
Alors, Anne-Marie, bah écoute.
Ah, bah, Saint-Nicolas,
va... justement, en parlant de bière.
Ah non,
oui, bah, voilà.
C'est pas la bière. La chaque fois, tu vois.
D'accord.
Là, cette fois-ci, je me suis lancée dans un truc. Au départ, on m'a dit blanc, froid, tout ça. Je me suis dit, oh tiens, les vikings, il y a un viking bien connu, il s'appelle Thorgal. Je vais me lancer là-dedans. Oh mon Dieu, quelle idée.
Il y a un paquet de bouquins quand même.
Il faut savoir quand même que ce petit, brave petit Thorgal là, viking, enfin qui n'est pas viking d'ailleurs, il est né en 1977 du scénario de Jean Van Hamme, un type qui devait être un peu hyperactif à mon avis,
à une certaine époque,
parce que vu tout ce qu'il a réalisé, il a fait tout, en gros. Je ne vais pas m'étaler, mais vous irez voir ce qu'a fait Jean Van Hamme, c'est incroyable. On ne sait pas comment on peut faire ça dans une vie. À mon avis, il a dû en vivre mille des vies. Donc, Jean Van Hamme et Grégor Rosinski, un Polonais, ils se sont lancés dans une aventure. Alors, ils ont commencé à publier quelques planches sur Tintin. Mmh. Et donc, ils en ont pondu, jusqu'au 41e album qui est sorti en novembre 2023. Mais entre-temps, ils ont fait des séries déclinées avec les autres personnages.
Avec les différents enfants.
Avec les enfants.
De Thorgal, bien sûr.
Ou avec certaines... certaines reines qui n'étaient pas très sympathiques.
Personnages secondaires.
Enfin bref, ça a été multiplié dans tous les sens. Donc je me suis dit, là Anne-Marie, t'es partie dans un truc pas possible. Alors, faisons un peu bref. Thorgal, Françoise, tu aimeras bien, c'est un beau mec.
Parce que t'aimes pas les beaux mecs.
Un brun.
Bah si, aussi. Ouais. Un beau brun ténébreux, sérieux, intègre, fort, puissant, mais le mec toujours très droit. Il refuse la violence. Bon, il trucide quand même quelques personnes parce que au bout d'un moment, il faut bien se défendre. Hein. Donc, il vit au milieu des Vikings. Alors, un beau brun au milieu des Vikings, il y a un problème. En fait, le problème, c'est que il a été trouvé par un Viking dans la mer, par une nuit d'orage. Ouais. Donc, ils ont retrouvé un bébé qui pleurait. Un truc un peu un peu fantastique,
un peu science-fiction,
il y a un peu de science-fiction, il y a un peu de tout dans cette série là. Il y a les Vikings, ça fait un peu historique, il y a des dieux, il y a des extraterrestres, il y a plein de choses comme ça,
la
mythologie, il y a beaucoup de choses. Donc ce petit bébé là est retrouvé donc au milieu des eaux par une nuit d'orage. Alors
le chef Haraldsson,
alors ils ont tous des noms difficiles à prononcer, le découvre et donc il dit je vais t'appeler Thorgal Aergisson, Thor comme Thor le dieu du tonnerre et Aergir le géant des mers. Donc pas vraiment dieu, un peu géant, un homme un peu extraordinaire. Et puis, ce brave gamin, il est regardé de travers dans son village viking, parce qu'ils sont tous blonds, et lui, il est brun, noir, voilà, quoi. Il n'a pas la tête, et puis on sait qu'on l'appelle le bâtard, quoi. Donc, il n'est pas trop bien traité. Mais il est quand même apprécié, parce qu'il maîtrise parfaitement les armes vikings, le tir à l'arc, les épées, tout ça. Il est au top, Et en plus, c'est un sacré séducteur. Et Vlatipa qui séduit la fille du grand chef.
Et ben voilà.
Alors le grand chef n'est pas content. Hein? Mais bon, la fille, elle est amoureuse. Qu'est-ce que tu veux?
Aricia.
Aricia. Il lui fait même trois enfants.
Ah.
Alors, David, les enfants, c'est comment? Je t'ai fait réviser.
Il y avait donc. Alors, le premier, c'était.
Rigifiloulou.
C'était Jolan.
Jolan.
la fille de Louve. Et le tout dernier,
Agnelle. Donc à eux aussi, leur arrive plein d'aventures. Docteur Gall est obligé de se battre pour défendre ses enfants. Il y a des personnages incroyables comme Chris de Valnor, qui a d'ailleurs toute sa série pour elle. Une belle rousse, puissante.
Elle n'est pas rousse, ça, dans les, et Bruno, les cheveux noirs aussi.
C'est la Bruno aux cheveux noirs, c'est l'autre, la rousse. Il y a plein de femmes, il y a plein de choses. Enfin, c'est une série incroyable et qui a vécu très très longtemps. Il y a plein de produits dérivés.
Ah bah, y a plein de séries,
donc ça a commencé tout petit dans Tintin. Et c'est devenu quelque chose d'incroyable.
Le personnage de Torgal et ses enfants, toute la trame familiale, elle est absolument géniale. Enfin, c'est pas Rosinski qui dessine, hein. Il y a plein de dessinateurs qui ont repris le relais.
Alors Rosinski, il a quand même dessiné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein.
Ah, les couvertures sont fabuleuses.
Rosinski, alors au début, ils ont choisi ce thème-là parce qu'il était en Pologne. Et avec la guerre froide, le mur de fer, le rideau de fer, ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'actuel. Donc ils ont choisi les Vikings, et à partir de là, ils ont dit un peu de science-fiction, et on raconte ce qu'on veut, ni vu ni connu. Ouais. Et donc, ils sont partis.
Alors, Rosinski, c'est un peintre incroyable, hein. J'ai vu des vidéos où on le voit peindre en peignoir chez lui, c'est fabuleux de voir comme il crée ses œuvres.
C'est un mec qui vit dans son sous-sol, la nuit, il peint, il dessine, il voit rien, et il produit.
C'est super. Tesla, oui.
Mais il est assez incroyable. Et il en a dessiné les.
Il y en a combien alors dans la série?
Alors, 41 de Pur Torgal, mais après, t'as les séries de Chris de Valnor, t'as les séries. Puis t'as les rééditions. Là, par exemple.
La jeunesse de Torgal aussi.
Jeunesse de Torgal. Là, par exemple, le dernier album qu'ils ont sorti, ils l'ont sorti en trois façons différentes. Un album classique. Un album spécial avec des cahiers pour une grande surface. Et alors, un super album de collectionneur qui vaut... Alors, le premier vaut 12 euros et quelques. Pratiquement 13 euros. Et le super truc de collection vaut 139 euros.
Ça va encore.
Donc voilà, Torgal, si vous avez envie pour les longues nuits d'hiver, les longues soirées d'hiver, vous pouvez vous faire toute la série.
Ok.
Voilà.
Ah bah, très bonne. Écoutez, on était super là, plein de. Alors, les petits conseils vite fait. Alors du coup, on va quand même conseiller 2-3 choses avant la fin de l'émission. Donc nous avons des petits remerciements à faire quand même. De toute façon, je vais remercier Hugo et Vincent du Cahier Bleu de Nancy pour les petites chroniques spécialisées manga sur nos capsules sur Facebook que vous pouvez revoir en replay également.
Bien sûr,
sur le son des bulles 90.7, mais la page Facebook également du son des bulles. Remercie aussi Pauline de Plus belle les bulles qui nous prépare actuellement des belles chroniques aussi avec Olivier.
Pour les albums jeunesse.
Pour les albums jeunesse. Ouais. On est vraiment dans le secteur de la jeunesse. Donc très très belle.
Sélection du blanc, du froid, de la neige pour le secteur jeunesse.
Voilà. Alors en ce moment, ça caille un peu, pas trop de festivals dans la région, mais ça va reprendre. Par contre, il y a pas mal de petits marchés de Noël donc, sur lesquels vous pouvez vous rendre. Il y aura bientôt l'art et la manière du côté de l'Octroi, où je serai éventuellement faire une grande visite, parce que ça risque de cailler quand même à l'Octroi. Donc,
c'est quand ça?
Rapportez-moi des couvertures et des plaids, s'il vous plaît.
Alors c'est quand?
Tu fais chaud, tu fais chaud.
C'est le 16 et le 17 décembre. Il y aura pas mal des artisans de Nancy, il y a beaucoup, mais pas que. Voilà. Donc le café BD court-circuit également le 14 décembre de 18h à 20h30.
Bah, juste après l'émission.
Ah, juste après. Voilà. Donc je vais pareil. Alors du coup, donc n'hésitez pas à aller voir le site, bien sûr, RCN, YouTube, nous liker, partager bien sûr les produits, tout ce que vous pouvez voir sur l'émission. Avec
et faites-nous des commentaires, c'est toujours commentaires agréable à lire, qu'on puisse savoir qui vous êtes aussi.
Voilà. Et donc il y aura le prochain concours
du
Carré Noir. Nous attendons bien sûr de nombreuses productions pour faire un album d'ailleurs.
Pourquoi pas
en faire une édition? Pas une émission complète.
Je change de couleur, hein. Je fais très
bien. Non, on est parti sur le noir.
C'est bien, parce qu'on peut mettre du blanc dessus.
Oui, et puis, je m'excuse, un selfie du Colorital en bleu. Ça n'a pas la même portée.
À moins d'être un truc extraterrestre.
Ça dépend quelle maladie t'as.
Où est-ce que t'as mangé?
Je crois que ça va aller comme ça. On va peut-être arrêter. Saluer tout le monde.
Voilà.
L'enfant sage de cette soirée.
Oui, ramène un petit peu de sérieux dans cette
soirée. On
s'égare. Voilà. Merci à vous, les amis.
Merci à tout le monde. Merci à notre ingénieur du son.
Merci à
qui va nous envoyer le bruit de la fin.
Allez, ça part.
Parce que quand même, on a bossé de façon hostile.
Le son
dans des
fin.
Conditions hostiles.
Oui, c'est vrai.
Allez.
toi.